Assalamu alaikum, shalom. Bonjour, nous sommes le lundi le 27 mars 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur Canal FM à Lomé, ses environs ici, mais également sur les antennes des radios partenaires, Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Nero, mais également dans le monde entier, les radios et autres canaux numériques qui vous permettent d'être en communion avec nous. À la réalisation technique, le duo Vitogbe Kokou Michel Tomenga et Gérard Kodjo Akucha. Aujourd'hui, lundi, c'est des sujets variés que nous allons aborder et qui vont porter sur les sports, les transports routiers, la politique et le développement, les droits humains, les élections à venir, pourquoi pas tout sujet sur lesquels nous serions heureux d'avoir vos commentaires et vos questions à partir de 12 heures. Nous savons compter sur les fidèles, mais nous espérons également que de nouvelles personnes entrent en ligne pour que le débat soit conséquemment plus riche. Et pour cela, les deux numéros qui sont mis à votre disposition, le 22 21 33 74 et le 91 36 63 75. Premier invité déjà à nos côtés au studio, Harry Miaou Tchanyaou, bonjour.
Bonjour, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à tous.
Bonne semaine de travail, mais également deuxième semaine du mois sacré du Ramadan dans le monde musulman, Harry Miaou.
Oui, tout évolue doucement et en douce. Et je pense que ça a pris et bientôt nous allons voir la fin. Et tous les musulmans sont actuellement en train de prier, non seulement pour eux, mais pour le Togo et pour tous les fils et filles de notre pays.
Alors pour les prières, hein, le Togo est bien garni. Hein, les chrétiens qui prient depuis qu'ils ont commencé le mois de carême, avec la Pâque dans moins de deux semaines, oui. Les musulmans au la deuxième semaine de leur carême, également pour le carême qui prient. Et puis hier, plutôt le samedi, j'ai suivi la Fédération nationale des cultes vaudous, également qui sont retrouvés à Didogomé pour prier pour le Togo, pour dire que pour les prières, le Togo en a à profusion. Vivement que Dieu écoute les différentes prières, Harry Miaou.
Absolument, notre pays en a besoin. Vous savez que le Togo, c'est un pays, je le dis tout le temps, c'est un pays qui a des particularités qui n'existent nulle part. Le Togo a été, à mon avis, c'est un pays élu de Dieu. Vous savez, le Togo a traversé, il vient de très loin, beaucoup de situations. Nuit et été, il vient d'hier, diverses. Le Togo n'en serait pas où nous sommes aujourd'hui. Vivement que les uns et les autres continuent par prier pour le Togo, pour que le Togo soit rayonnant davantage et qu'il soit un pays prospère, comme nous le vivons déjà, ces moments.
Eh bien, les chrétiens qui prient, les musulmans qui prient, les tenants des divinités traditionnelles qui prient, l'occasion de rappeler que le Togo est un pays laïque, hein, qui laisse la liberté d'opinion et de religion à chacun comme il entend. Seulement, il faut rappeler que cette liberté de foi est également réglementée, d'où la direction des cultes, hein, qui est au ministère de l'administration territoriale, pour dire qu'au Togo, toute liberté devrait s'exercer dans le respect de la loi. Didier Assogba de Togo Brico News, bonjour.
Bonjour ça, c'est bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous les Togolais de différentes confessions religieuses. Je vous ai entendu dire que les musulmans prient pour le Togo, les chrétiens prient, ils sont en train de prier pour le Togo. Et je voudrais profiter de l'occasion pour faire un coucou ou plutôt souhaiter vous présenter des encouragements à un pasteur que je connais et qui depuis quelques années qui prie qui organise des prières chaque fin du mois, avec ses fidèles, donc pour le Togo, pour la paix, la stabilité, contre l'insécurité, C'est le pasteur Dieudonné Adadi des églises Ministère International Réveil des derniers temps. Et beaucoup de courage, des initiatives de ce genre. Je pense que nous devons le multiplier dans le Togo pour que Dieu, sous la bannière de laquelle nous nous plaçons, puisse continuer à veiller sur le Togo.
Amen. Toutes ces prières devraient nous amener au changement. Et le changement, justement, c'est sur le changement que porte la pensée du jour quand le sage nous dit que changer ne prend qu'un instant. Et c'est la résistance au changement qui prend toute une vie. Quand on veut changer, ce n'est que l'affaire d'un instant. Or, nous pouvons développer toute notre vie à résister au changement. Eh bien, c'est parti, comme je l'ai dit, les sujets sont riches et variés. Commençons par Palimé, qui a été du jeudi jusqu'à hier, en quelque sorte, la capitale du Togo. Tout le gouvernement s'est retrouvé à Palimé pour le séminaire gouvernemental du vendredi jusqu'à hier dimanche. C'est la première ministre, Mme Toménga Dobé, a mis l'occasion de son séjour à Palimé à profit pour inaugurer le nouveau marché de Palimé. C'est également à Palimé que Mme Toménga Dobé a couru le samedi pour nous rappeler la journée nationale des sports à laquelle tous les Togolais sont invités le dernier samedi de chaque mois. Harry Miaou, malgré le carême, je présume que tu as un peu marché, au moins marché samedi.
Absolument. Je crois qu'il faut commencer par saluer encore cette journée que le gouvernement a instituée et dire que nous en avons besoin. C'est vrai, d'aucuns diront qu'avant que le gouvernement n'institue cette journée, les Togolais faisaient le sport comme ils le pouvaient. Les samedis comme les dimanches, d'autres le faisaient le jeudi, surtout les militaires. Mais ce qui a été fait est une démonstration d'une volonté de la part de ceux qui dirigent le pays pour dire oui, nous savons que vous le faisiez, mais nous voulons que ça prenne davantage. Et c'est le modèle que le gouvernement est en train de donner avec Madame la Première Ministre, avec le ministre des Sports et d'autres ministres qui se sont mis aux côtés des populations de Palimé. Ça permet, outre de donner la santé, de nous permettre de nous épanouir davantage, ça permet aux Togolais, de quel rang qu'ils soient, de quelle position qu'ils soient, de se brasser avec le reste des citoyens. Et c'est ce qui a été fait. Vous voyez ce que ça peut donner comme mouture quand on voit Madame le Premier ministre, on voit les ministres se mettre ensemble avec le reste de la population pour prester le sport, pour courir, pour faire des gymnastiques. Et ça permet aux Togolais de se sentir les uns et les autres proches et serrés. Et cela nous permettra d'avoir davantage un élan. Parce que moi, je crois que quand les gens font le sport, il n'y a pas de différence de religion, il n'y a pas de différence d'origine, il n'y a pas de différence. Et ça nous permet de nous familiariser davantage.
On dit que ce sont des journées nationales de sport-éducation parce que non seulement nous sommes invités à pratiquer le sport de notre choix, mais il y a également des séances de sensibilisation, aussi bien sûr les vertus du sport que sur certaines notions communes de citoyenneté et de civisme en ces temps où notre pays est confronté à divers défis. Le sport de masse, mais également le sport de compétition. C'est demain mardi que les éperviers vont recevoir les étalons du Burkina dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Le troisième match, nous l'avons joué et perdu. 0-1 en face des étalons du Burkina. C'était le vendredi dernier, cette défaite qui amenuise, sinon enlève pratiquement des chances de qualification des éperviers pour la phase finale. Mais Didier, le Togo s'est inscrit. Nous devrons jouer les trois matchs restants pour la phase éliminatoire. Demain, on verra bien la prestation que les éperviers vont livrer devant le Burkina Faso, même si l'enjeu de la qualification s'éloigne.
Oui, de toute façon, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix que de jouer ce match-là et de l'organiser d'ailleurs d'abord et de le jouer sur nos installations demain, même si nous sommes en situation très compliquée dans le groupe, avec pratiquement le Burkina déjà qualifié et le Cap-Vert qui est bien parti pour être le deuxième dans le groupe, et que nous, on est encore le dernier avec un petit point derrière. Donc ça va être extrêmement compliqué. On comptait sur les éperviers pour cette double confrontation face au Burkina Faso. Donc à l'aller, il ferait un meilleur résultat. Au pire des cas, avoir un match nul pour revenir affronter sérieusement la seconde manche. Mais ça n'a pas été le cas. Ça reste les éperviers qui continuent, donc comme pour paraphraser un confrère dont j'ai lu le titre la nuit et qui m'a fait sourire un peu, continue de maintenir le cap dans la descente aux enfers ou sinon dans les défaites. Et ça craint énormément. On finit par perdre d'espoir en nos éperviers. Et tout ça là, je pense que quand on va finir ces 16 éliminatoires, qu'on réussisse à se relancer ou qu'on soit éliminé demain, il faut véritablement que quelque chose, une initiative soit prise, soit au ministère des Sports, soit parce que quand on parle de la FTF, il me paraît que les gens de là-bas sont réfractaires aux suggestions au Conseil, ils ne veulent plus écouter les autres parce qu'ils pensent maîtriser tous les rouages du football et qu'ils pensent que avec leurs seules idées, ils peuvent développer le football togolais. Mais il faut véritablement que quelque chose soit fait, parce que depuis que le colonel Akpovi est là, on n'a pas de résultats. Notamment au niveau de l'équipe nationale, il n'y a pas de résultats. Il y a cette CAN sporadique à laquelle on était qualifié avec Claude Leroy. On a vu comment ça a été géré. Et depuis lors, ça fait que des éliminations sur des éliminations. Et depuis que le nouveau coach est là également, on a pensé à une reconstruction, à une refondation de l'équipe nationale. Ça n'a pas été le cas. Tout a été détruit. On voit l'équipe togolaise qui n'a plus d'âme. Alors que quand une équipe de football n'a pas d'âme, ne pensez pas à un résultat. Ne pensez pas à un résultat. Vous voyez comment les gens font les transitions au niveau des équipes nationales. Nous, on n'a pas su le faire. Claude Leroy était passé par là et a chassé tous les anciens. Et Paulo Duarte, quand il est arrivé, on avait compté sur lui, on pensait qu'il allait poser les bases même de l'équipe et essayer de construire, de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. On voit que lui aussi, il persévère dans les dérives, parce que il y a une équipe qui se mettait en place quand il est arrivé, mais tous ces gens-là, ils ne sont plus là. Lui aussi, il est parti chercher ses joueurs, et ces joueurs qui viennent et qui ne donnent pas pratiquement rien en équipe nationale. On a vu les résultats, le match face au Burkina Faso, où on était bien parti pour marquer, mais on n'a même pas marqué, on se fait harakiri à la fin du match, et on espère faire un miracle. Maintenant, on va mettre dans les calculs. Mais le football, maintenant, c'est du travail. Puisqu'on n'a pas travaillé, si on n'est pas qualifié, il faut, à ma foi, qu'on revoie sérieusement les choses. Parce que là, on parle du Togo et il y a un État au Togo.
Merci. Eh bien, le point est mathématique. Après 3 journées, le Togo totalise 1 point. Pour ne pas dire que nous sommes derniers. Devant nous, Eswatini, anciennement Swaziland, qui compte 2 points. Ensuite, il y a le Cap-Vert, qui est deuxième avec 4 points. Le Burkina avec 9 points qui est en tête. Rémi, on va dire que mathématiquement, si le Togo remportait les 3 matchs restants, à savoir demain face au Burkina, ensuite devant Eswatini et puis le Cap-Vert, on pourrait encore avoir des chances d'être qualifié au moins deuxième. Mais tu sais, avec les 6, tous les miracles qu'on pourrait faire.
Absolument. Et ça, vous voyez, vous avez un pays où le premier citoyen a prouvé à tous l'amour qu'il porte au football. Vous savez, récemment, à la dernière Coupe du Monde, vous avez vu les déclarations du chef de l'État togolais. Vous avez un gouvernement qui a une politique de sport, notamment le sport roi, qui est le football. Et je voudrais dire que au Togo, nous en sommes où nous sommes aujourd'hui parce que, quelque part, les gens n'ont pas pris la mesure de la chose et courageusement pour mettre de l'ordre dans le premier sport que nous avons, qui est le football. Il y a beaucoup d'autres disciplines que je respecte, mais je crois que c'est le sport qui fédère plus les Togolais, et d'ailleurs toutes les nations, c'est le football qui fédère les gens. Maintenant, au Togo, Didier a parlé tout à l'heure de la fédération. Je ne crois pas que forcément c'est la fédération qui jouerait. Et je crois que le sport, c'est tout un processus, surtout quand c'est le football, c'est un processus. Il y a eu des initiatives que le gouvernement prend par-ci, par-là, mais je crois que la finalité de l'application de ces initiatives-là n'est pas ce que nous attendons. Et donc, le ministère des Sports doit faire tout de son possible pour appliquer intégralement la politique de football que le Togo développe. Vous savez, le président de la République a annoncé qu'on doit faire du vrai football. Il a salué d'ailleurs les pays comme le Cameroun, les pays comme le Sénégal, où les entraîneurs étaient d'ailleurs des nationaux et qui ont prouvé le meilleur de ces pays-là lors de la dernière Coupe du Monde. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'entraîneur. Nous avons des gens sur place ici qui connaissent bien le Togo. C'est pour cela que parfois, dans d'autres domaines, je suis contre qu'on nous amène des experts pour nous montrer notre pays. Qu'on nous amène des gens qui ne connaissent même pas combien, qui ne peuvent pas citer 5 dialectes de notre pays pour parler de notre pays. Qu'on nous amène des gens qui ne peuvent pas citer 2 villages d'une préfecture, qui ne connaissent absolument rien de notre pays pour nous parler de notre pays. Chaque pays a ses réalités. Et le football également a ses réalités. Quelqu'un, j'ai entendu sur une radio, quelqu'un qui disait qu'il y a eu trop de charges négatives de côté spirituel qui embobinent notre équipe nationale, qui font que le Togo n'avance pas. Il y a de ces gens-là qui peuvent mieux faire qu'on a mis de l'autre côté. Et disons-nous la vérité, parfois, les gens saluent la politique dans le football. Les gens permettent à d'autres qui n'ont pas le mérite de faire dans le football. Et comment, en ce moment, on peut avancer? Comment est-ce que quand les gens torpillent la réalité, on peut évoluer? Comment si les gens restent avec leur ego, qu'ils disent que nous avons été, on n'a pas voulu, maintenant ils n'ont qu'à faire, on va voir. Donc aujourd'hui, tout est à refaire par rapport à notre football. Moi, je suis pessimiste. Je veux bien que le Togo gagne. D'ailleurs, vous allez voir, quand on annonce qu'il y a match, demain je ne suivrai rien. Que ça passe à la télé, que ça passe partout, moi, je suis déçu. Et je voudrais que ceux qui ont en charge les grandes responsabilités de réorienter notre football, je dis bien réorienter, prennent leurs responsabilités, et s'il faut casser des œufs, qu'on les casse, et qu'on ait notre omelette, et que le Togo en soit plein fier.
Merci, ce match se jouera demain, on annonce 21h, ou bien 20h, si ça se jouera la nuit, hein, Togo, Burkina Faso, au stade de Kégué. Mais des éperviers, continuons et terminons pas. Les championnats nationaux, notamment la D2, qui va son petit bonheur de chemin avec les prouesses diverses, d'après les équipes. Mais Didier, je suis tombé sur un article de ta rédaction, Togo Brico News. Quand tu mets en lumière un litige entre deux clubs de D2, à savoir Fouadan de Dapaon et Kouroki Metété de Tchamba, pour un problème de match joué, gagné par Kouroki Metété, 1-0. Mais entre-temps, Fouadan a relevé appel contre un joueur de Kouroki qui aurait été aligné en toute situation irrégulière. Et Fouadan attend que justice lui soit faite, n'est-ce pas?
Oui, vous savez, on continue de parler de notre football. On pourra mettre toute l'émission à profit. On ne finira jamais de parler de des rouages de ce football-là et de ces problèmes. Vous savez que les championnats au Togo sont toujours... on essaye de dire qu'on professionnalise, mais on est toujours à l'étape amateur. Ce qui fait que vous allez voir des joueurs qui quittent des clubs sans véritablement qu'on constate la fin de leur contrat, la fin de leur bail, et qu'il n'y ait pas de transfert ou de prêt. Et ces joueurs-là, des fois, qui retournent à la maison et qui s'engagent avec d'autres clubs sans qu'il n'y ait des procédures véritablement pour permettre de les enrôler. Et dans le cas d'Espèce, le championnat de deuxième division qui est en cours actuellement connaît des situations, plusieurs situations d'ailleurs liées à des joueurs qui avaient dépassé et qui ont décidé pour la plupart de changer d'identité pour s'offrir d'autres noms, pour aller s'engager avec d'autres clubs de jouer. Mais malheureusement, puisque c'est la même personnalité, c'est le même personnage avec le même corps, on arrive toujours à les identifier. Ça a été le cas avec d'abord, si vous permettez, puisqu'on parle de Koroki et de Fuanda, ça a été le cas. Il y a un match que les deux clubs ont joué à Kara, donc le 7 février 2023. Et qui a vu la victoire de Koroki sur Fouadan, 1-0 sur le terrain. Mais il se trouve que le club de Tchamba a aligné un joueur, un certain numéro 5, qui s'appelle Ismaïla Aminou, et qui, ma foi, et selon les informations, a déjà joué plusieurs clubs, notamment au Bénin et tout ça, et dont fortuitement... le coach de Fouadan avait eu à travailler avec lui, notamment quand il jouait en deuxième division au Bénin, sous le nom de Tchani Arafat. Il jouait là-bas sous le nom de Tchani Arafat. Et quand il est revenu au Togo, il se fait changer de nom pour s'appeler Ismaïla Aminou.
Seulement, il n'avait pas fait de chirurgie esthétique.
Il n'avait pas fait de chirurgie. Donc, finalement, les dirigeants du club de Fouadan le repèrent et formule une réserve au niveau de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football, qui a demandé des preuves, et notamment qui lui ont été fournies avec les photos du joueur lorsqu'il était dans l'équipe du Bénin, l'équipe de deuxième division du Bénin, c'est le club GSA du Bénin. Quand il jouait là-bas, on a fourni à cette commission-là les photos, et en plus, comme élément de preuve supérieure, la licence du joueur en question lorsqu'il jouait dans le championnat béninois. Et donc les auditions ont eu lieu et le joueur a simplement refusé de comparaître devant la commission de discipline et s'est simplement contenté d'envoyer de dire par téléphone qu'il n'a jamais joué au Bénin. Et il y a eu une nouvelle audition qui a eu lieu, et depuis cette affaire traîne depuis février, on est fin mars. Mais on ne comprend pas pourquoi la commission de discipline tarde à rendre le verdict. Surtout que dans le même championnat déjà, Fouadan a déjà eu le même coup avec Gbikenti, alors que Fouadan avait gagné lui aussi contre Gbikenti. Gbikenti a formulé des recours sur deux joueurs. Et il s'est révélé que oui, justement, Gbikenti a raison de relever appel parce que les joueurs en question évoluait dans d'autres clubs et avait présenté des licences qu'il ne devait pas présenter. Et la même commission de discipline avait déclaré Fouadan perdant du match et avait donné tous les points à Gbikenti. Donc on se retrouve dans pratiquement les situations similaires, et alors que dans l'autre cas il y avait une célérité dans le rendu de la décision finale. Mais depuis début février jusque là, Fouadan est là et attend que la commission de discipline rend son verdict, mais on ne sait pas, peut-être qu'il y a d'autres pesanteurs qui font que cette décision peine à être prise.
Voilà, c'est ce cas qu'évoque Togo Breaking News, que l'instance que le football a mise en place statue et également tranche dans cette affaire-là, parce que quand le championnat est très serré, les points deviennent très chers. Arimiaou ?
Non, je crois que ça fait partie de ce que nous disons tout à l'heure. La santé du football dans tous les pays, c'est aussi le sérieux et la transparence, surtout de la commission de discipline. Parce qu'on ne peut pas, par rapport à ce que Didier décrit, on ne peut pas, pour la même situation, où avec Bikenti, Fouadan a été sanctionné et a perdu ses 3 points parce qu'il y a eu des évidences. On ne peut pas se cacher derrière le même fait qu'aujourd'hui avec Koroki, où c'est prouvé que le joueur vient du Bénin et se mettre à traîner ou à marquer un silence autour de la question. Je voudrais dire qu'il faut que nous prenions le dessus de tout ce que les gens peuvent apporter comme pression, de tout ce que les gens peuvent apporter comme façon et embrigader le football du pays. Pour moi, la commission de discipline, même si elle estime que les preuves n'étaient pas, peut-être qu'elle va dire qu'elle veut voir clair dedans, ici le Cotonou ou ici le Bénin, c'est à la demi-heure, à deux heures de temps, on est au Bénin, on peut pousser les enquêtes très loin et voir et trancher la chose comme elle doit être. Maintenant, à garder le silence, à ne pas aller vite comme cela a été fait dans l'autre cas, je dis que ce n'est pas bien d'abord pour le football. Le football, au-dessus de tout ce que nous avons, c'est le fair play. Donc, au-delà, il faut que le fair play le transgresse sur tout ce qu'on peut avoir à faire comme avantage pour telle ou telle équipe. Donc, vivement, que la commission de discipline se prononce rapidement sur la question avec un jugement ou bien un rendu bien fait et sincère qui satisfasse les uns et les autres. Parce que si dans l'autre cas, ça a été fait, comme Didier vient de le dire, face à Bikenti, pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas apporter des évidences et mettre les choses telles qu'elles doivent être? Donc, que le sérieux revienne dans notre football. C'est le pays qui en gagne, c'est nous tous qui en gagnerons également.
Il s'agit d'une question de justice, ouais, d'éthique sportive. Terminons avec Kpalime. Je disais tantôt que Kpalime s'est retrouvé un peu la capitale en miniature du Togo ces derniers jours. C'est là que on a parlé des sports de masse, que la première ministre, au cours de laquelle la première ministre a encore démontré ses talents de coureuse et de marcheuse et également de gymnaste. Et puis, c'est également à Kpalime qu'elle a inauguré le nouveau marché de Kpalime. Et également, c'est Kpalime qui a abrité le dernier séminaire gouvernemental en date. Et naturellement, les journaux nous le rappellent. Togo Matin qui écrit séminaire gouvernemental. Forn Yasingbe qui a mobilisé davantage l'équipe gouvernementale. Nouvelle Opinion nous écrit que Forn Yasingbe a invité les ministres à accélérer la mise en œuvre de la feuille de route et que Mega Info lui rappelle que les ministres ont été instruits sur la suite de leur mission. Sauf que tous ces articles nous ont été inspirés par le communiqué rendu public par le gouvernement. Aucun journaliste ne s'est retrouvé à Kpalime pour suivre de près les travaux du séminaire, ce qui a été fait, Didier, à la matière. C'est les coulisses qui sont généralement croustillants, mais nous n'y étions pas. Donc nous sommes obligés, nous sommes condamnés à nous contenter du communiqué émis par le gouvernement. Didier.
Oui, tu as relevé un point assez crucial et on se posait cette question. On avait ces appréhensions depuis que le gouvernement délocalise les conseils des ministres, délocalise justement les séminaires gouvernementaux. Et à chaque fois, il est promis qu'un communiqué sera diffusé à la fin des travaux. Et c'est justement ce communiqué qui arrive des fois plusieurs heures plus tard, qui arrive certaines fois des jours plus tard, qui nous permettent d'avoir les éléments qui permettent à chacun d'élaborer les éléments. Mais je pense fondamentalement que le gouvernement ne peut pas continuer à danser et à s'apprécier. Je veux, et ça sera un vœu que nous formulons au nom de toute la presse. Je ne suis pas la personne indiquée. Nous avons le président du CONAP dans le studio. Mais nous allons demander humblement à nos autorités de continuer à nous faire confiance. Parce que je ne sais pas de quoi les autorités auraient peur en invitant, ne serait-ce qu'un échantillon de journalistes. Kpalime, c'est juste à côté ici. On sollicite quelques journalistes, ils pourraient s'y rendre. Pour ne serait-ce que interviewer les ministres à la fin des travaux ou, comme on fait, suivre, poser quelques questions à la fin des travaux pour que eux-mêmes ils recueillent les éléments pour pouvoir venir, pour revenir les traiter de façon professionnelle, de façon journalistique. Un communiqué, voilà, les experts écrivent les communiqués, mais bon, les journalistes ont peut-être besoin des détails qui ne s'y trouvent certainement pas. Donc ça va être un plaidoyer que nous formulons directement, puisque je suis conscient que les autorités nous écoutent, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement nous écoute, et que la Présidente de la République, on nous écoute également. C'est un vœu, nous voulons venir voir pour pouvoir bien rendre et bien servir le gouvernement, et comme dirait la TDE, si vous permettez, c'est aidez-nous à mieux vous servir.
Alors justement, en matière de nous, de que vous nous avez dit à mieux nous servir, Arim Yaou, des gens nous posent souvent cette question. Est-ce la faute au gouvernement qui n'invite pas les journalistes, ou bien est-ce plutôt la faute aux journalistes qui n'ont pas l'audace de se déplacer sur les lieux du séminaire gouvernemental?
Non, je crois que il ne faut pas faire amalgame autour de la question. En réalité, si le gouvernement se déplace et va à Palimé pour un séminaire gouvernemental, il doit inviter la presse. La preuve est que parfois, il y a des choses que le Togo fait ici. On invite des journalistes de l'extérieur. Et ceux-ci, ils auraient pu venir. Mais maintenant, si vous atterrissez, on vous dit, vous n'êtes pas invité. On n'a pas besoin de vous. Vous ferez quoi? Donc, le gouvernement devrait inviter. Et c'est ce que le gouvernement ne fait pas. Et dans le pays, vous allez voir que la supputation dans notre pays est en train de prendre le dessus de la communication en toutes choses. Parce que les gens ne veulent pas communiquer, parce que les gens ne veulent pas prendre les mesures idoines qu'il faut pour passer des messages, on laisse libre cours la supputation. Vous avez bien fait de dire que le travail qui a été fait, que ce soit au niveau de mon journal, au niveau de Mega Info et de tout le monde, ce travail a été fait sur la base du simple communiqué que chacun a eu. Les ministres ont été formés, mais il s'agit du gouvernement togolais. Il s'agit des ministres togolais. Il s'agit de l'exécutif de notre pays. Et je crois que ce n'est pas le premier ministre qui formait les gens. Ce n'est pas un des ministres experts qu'on a dû choisir pour former ses collègues. Ce n'est pas le chef de l'État en personne qui forme les ministres.
Il a juste ouvert les travaux.
Il y a des experts.
Il a donné les instructions.
Et je crois que c'est ces experts qui intéressent la presse. Parce qu'il faut qu'au-delà de tout ce que les experts donnent comme communication, au-delà des enseignements, du plus qu'ils apportent à nos gouvernants, que la presse puisse aller percer le fond de ce qu'ils donnent comme message. Et c'est ça qui doit intéresser les Togolais. Parce que quand on multiplie les séminaires et des gouvernants, ça veut dire qu'il y a un impact qui est caché derrière et qui doit intéresser les citoyens togolais. Et c'est ça la presse doit chercher. Parce que si demain il y a encore un autre séminaire, tout le monde dira son satisfait de tout ce qui se fait comme séminaire tous les jours. Ceux qui vont à l'école de ces experts diront qu'ils sont satisfaits. Mais nous, qu'est-ce que nous avons comme info sincère près des experts directement pour servir la nation? Donc, prochainement, comme Didier l'a dit, il serait intéressant, parce que nous avons toujours joué le rôle d'accompagner, d'édifier les Togolais, d'aider à gouverner bien le pays, parce que dans la gouvernance, la presse aussi a sa place, bien logée, en bonne position, pour que le pays s'éclate.
Merci. J'aime bien le slogan de la TDE que Didier vient de reprendre, que le gouvernement nous aide à mieux le servir. Et l'actualité, vous savez, la France, qui se trouve empêtrée dans sa réforme pour les retraites. La semaine dernière, le président Emmanuel Macron s'est vu obligé de s'adresser à son peuple. Et vous rappelez le canal, ouais. Plutôt que de faire un discours académique, il a plutôt choisi la formule d'un entretien avec deux journalistes qu'il a invités au palais de l'Élysée. Et puis le message est passé, même si l'accueil que les Français ont réservé à ce message est autre que ce que Emmanuel Macron attendait.
Justement,
nous aimerions également que le chef de l'État, la chef du gouvernement, les ministres, nous sommes Togolais, nous sommes fiers des Togolais qui nous associent, nous la presse, et directement nous allons gagner tous en excellence et de plus en plus en confiance.
Sans tu imagines, tu as dit avec les si on pouvait faire beaucoup de miracles justement. Mais tu imagines qu'à Palimé, le chef de l'État s'est entretenu justement avec deux, trois journalistes qui lui posaient des questions auxquelles il répondait par rapport à ce que le gouvernement a dit dans le communiqué que le chef de l'État a dit en ouverture des travaux, qu'on devrait aller vite et bien faire. Sur quelle base? Pourquoi le chef de l'État a dit cela? Bon, voilà, si on posait des questions pour creuser un peu, les journalistes, nous avons traité, on a pris cette cotation-là, citation-là du chef de l'État, on a exploité comme on veut. Mais si on voulait creuser davantage, nous on peut laisser les détails, mais pourquoi le chef de l'État a estimé le besoin aujourd'hui pour le gouvernement togolais de bien travailler, de vite travailler, d'aller vite? Pourquoi? Et il aurait pu nous donner des éléments de réponse qui intéresseraient et qui rassureraient beaucoup davantage les Togolais. À défaut du chef de l'État, Madame le Premier ministre aurait pu faire, ou à tout le moins un des porte-parole du gouvernement, puisqu'on en a deux. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, on communiquait comme ça, qu'on nous envoie un peu partout. Mais on s'est contenté de cela, mais ce sera vraiment intéressant. Nous sommes journalistes togolais, nous ne sommes pas journalistes béninois, ghanéens. Nous n'avons que nos autorités pour nous parler et nous n'avons que le Togo comme patrie pour que nous servons. Et il faut justement qu'on nous tienne en compte dans les programmes.
Merci. Et puis, tu es relevé. Il y a un nouveau phénomène. C'est comme on a l'impression qu'il y a une nouvelle agence de communication à la présidence ou dans le gouvernement. Il y a des activités. Même Radio Lomé n'y va pas. Même la TVT n'y va pas. Même Togo Presse n'y va pas. Et c'est des gens qui sont là-bas qui envoient des images et des éléments de langage que même les médias publics diffusent. Nous, j'avoue que nous, ça nous met dans une situation de malaise. Nous ne sommes pas des perroquets pour seulement reprendre. Nous aimerions aimer sur le terrain. En tout cas, Canal FM aurait aimé envoyer un reporter sur le terrain avec les à-côtés, les coulisses. C'est ça qui rend l'information plus dynamique et plus sucrée ou plus salée aussi. Encore que le sucre et le sel ne sont pas conseillés, surtout avec notre âge avançant. À présent, nous allons parler des transports routiers, notamment de quelque chose qui est arrivé sur la scène togolaise depuis quelques années et qu'on appelle taxe sur véhicules à moteur. Et dernièrement, je lisais dans un groupe que le contrôle de la taxe sur le véhicule à moteur commencerait le 1er avril, dans quelques jours. Je m'étais dit, est-ce que c'est un poisson d'avril ou bien est-ce que je dois prendre cette affaire-là au sérieux? Et comme Didier dit, il faut toujours aller à la première source. Nous avons approché nos amis de l'OTR. C'est nos amis, non?
C'est nos amis.
Nos partenaires. De l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui nous a délégué aujourd'hui deux de ses experts. Monsieur Bernard Egbamien, bonjour.
Bonjour, Sass.
Bernard, c'est bien, mais il n'y a pas un prénom qui colle davantage au Togo. Moi, c'est Kodjo.
Oui.
Masama Esso. Je préférerais cela. Vous pouvez peut-être monter un peu votre siège là. Eh bien, Bernard Masama Esso Egbamien, il est inspecteur des impôts, responsable en charge de la section TVM à l'OTN, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et à ses côtés, Essohuna, Passa, bonjour.
Bonjour, Sass.
Vous êtes responsable recouvrement TVM.
C'est bien ça.
Bon, ce que j'ai lu dans le groupe là, est-ce que c'est un poisson d'avril? Quand j'ai lu que le contrôle de la TVM commencerait le 1er avril prochain, alors, dois-je prendre ça au sérieux ou bien poisson d'avril? Monsieur Bamien.
Oui, merci beaucoup, Sass. Merci à tous vos confrères. Bonjour à tous les auditeurs.
Et auditrices.
Et auditrices, évidemment. Effectivement, le 1er avril 2023, et le contrôle de la TVM pour le compte de l'exercice 2023 va démarrer, suivant le calendrier fiscal en
vigueur. Donc, ce ne serait pas un poisson d'avril?
Non, ce n'est pas un poisson d'avril.
Et si le contrôle doit démarrer, ça veut dire que nous devons nous préparer.
Tout à fait.
À montrer pâte blanche.
Voilà, votre vignette, voilà.
Eh bien, la taxe sur le véhicule à moteur, nous en parlons beaucoup, mais quand vous êtes là, vous voulez nous la reprendre, qu'est-ce que c'est, cette taxe-là, qui fait beaucoup parler d'elle?
Merci beaucoup, Sass, une fois encore. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer nos reconnaissances à tout le comité de direction de l'Office togolais des recettes, à sa tête le docteur Philippe Kouakou-Chaudier, qui ne ménage vraiment aucun effort pour faire de cet office une administration moderne et performante. Pour revenir à votre question, ce que c'est que la TVM, la TVM est une taxe directe assise sur tous les véhicules propulsés par un moteur.
Français facile, nous ne sommes pas tous experts de l'OTR, monsieur Bamien.
Voilà, donc c'est une taxe qui est due pour tous les véhicules à moteur. Et donc en fonction du type et de la puissance du moteur. Et donc ça concerne tous les véhicules, c'est-à-dire tout engin qui est propulsé par un moteur et qui est utilisé.
Et donc les motos et nos différentes catégories de voitures, de camions, nous sommes astreints à payer la TVA.
Tout à fait.
Okay. Et pourquoi?
Merci pour la question. Et permettez-moi de faire ce lien. Je crois que, pas plus que le 24 janvier dernier, le chef de l'État dans s'est adressé, ou bien il a échangé avec les directeurs de régionaux, les chefs services de concentrés de l'État.
La région centrale, voilà. Kara et Savanakara.
Voilà, il a insisté sur certains éléments. Il a rappelé les valeurs et les missions du service public, tout en faisant un lien avec tous les défis liés aux axes prioritaires de la feuille de route gouvernementale, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et des grands travaux. Quand on parle de grands travaux, et c'est ce qui me concerne, les infrastructures routières. Donc, la TVM répond à un besoin additionnel depuis 2020 en termes de ressources pour assurer le financement de l'entretien du réseau routier togolais.
Donc, la TVM, c'est pour participer au financement de l'entretien routier.
Tout à fait.
Mais nous avons déjà les péages que nous payons et qui se multiplient un peu partout sur toutes les artères. Est-ce que ce qui est prélevé au péage ne suffit pas pour entretenir le réseau et qu'on soit encore obligé de créer la TVM pour nous?
Oui, ce n'est que... vous voyez l'effet depuis près de 15 ans déjà. Toute la politique des grands travaux entrepris par le gouvernement, sa tête, le chef de l'État, nécessite beaucoup de moyens pour assurer l'entretien. Au-delà, c'est une étude, c'est la loi 2018-024 du 20 novembre 2018 portant cours général des impôts qui a institué cette taxe-là. Donc ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui a été fait et qu'il a nécessité un besoin additionnel en termes de ressources.
Alors voilà. Pour faire un point en mi-parcours, la TVM est créée officiellement et elle s'impose à tous ceux qui utilisent des véhicules, voilà. Motos, voitures ou camions de toute catégorie. Voilà. Eh bien, maintenant, dans quel délai les propriétaires des véhicules doivent-ils s'acquitter de cette TVM? Je ne sais pas ça.
Oui, merci Sas, merci chers auditeurs
et auditrices.
Auditrices de Canal FM et également partenaires de l'Office togolais des recettes. Et pour revenir un peu à votre question, le délai de paiement de la TVM est fixé à la fin du premier trimestre pour les particuliers et pour les entités le 30 avril et pour les compagnies d'assurance le 31 mai. Mm-hmm. Voilà, c'est un peu le délai. Et également, pour ajouter à ce délai-là, lorsque vous avez votre visite technique à faire dans cette période du premier trimestre, vous devez obligatoirement vous acquitter de la TVM au niveau des transports routiers, mm-hmm. conformément aux dispositions de l'article 168 du Code général des impôts.
Alors, pour ce que vous voulez dire là, est-ce que le propriétaire de voiture comme Tchagnao, il attend la période de la visite technique pour aller s'acquitter de la TVM?
Merci pour cette question. Comme la loi l'a bien demandé, exigé, la TVM se paye au plus tard le premier trimestre pour les particuliers. Bon, votre collègue, M. Arim Niao, mm-hmm. si sa visite technique est dans cette période du premier trimestre, bon, sans souci, il peut payer la TVM au niveau des transports routiers. Maintenant, lorsque la visite technique est peut-être en juillet, en novembre ou bien en décembre, il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la visite technique pour pouvoir payer sa TVM. Il doit respecter les dispositions du Code général des impôts sous peine peut-être de tomber dans la période des pénalités mm-hmm. qui va commencer à partir du 1er avril pour les particuliers.
Alors, je laisse Harry Mio, je parle de moi-même. Ma visite technique, c'est en juin. Donc, est-ce que je paie la TVM avant le premier trimestre ou bien j'attends plutôt la période de ma visite technique. Monsieur Gbagnier.
Oui, ça, je crois qu'il faut simplifier un peu la procédure pour faire comprendre à tous nos auditeurs comment le mécanisme se passe. Mm-hmm. Quand nous prenons les motos au cordon douanier, la TVM est payable en totalité une fois de façon définitive, c'est-à-dire au cordon douanier, dès que vous payez votre moto, quand on vous sort votre bulletin de liquidation pour avoir le dédouanement, vous payez la TVM uniquement une
pour
fois.
Les motos.
Pour les motos, définitivement. Maintenant, par rapport aux engins, aux véhicules, aux autres véhicules, pour la première année également, dès que vous payez votre véhicule dans les formalités douanières, vous payez la TVM pour la première année au cordon douanier. Et là même, ce n'est pas le tarif annuel même qui est appliqué, c'est le prorata temporis, c'est-à-dire par rapport au temps qui reste, qui est appliqué pour cette première année-là. Maintenant, l'année suivante, je donne un exemple, vous avez payé votre véhicule en juin 2022, mm-hmm. où vous avez payé pour l'année 2022 la TVM au cordon douanier. Donc, l'année qui doit suivre, vous avez le premier trimestre de l'année 2023, au plus tard le 31 mars, pour tenir, pour venir procéder à vos déclarations à nos guichets au niveau dans toutes les divisions des impôts, au bureau des impôts. Vous venez avec votre carte grise, on vous liquide, on vous sort, on vous dit pour le compte de l'année 2023, toute l'année 2023, vous devez payer une TVM suivant votre puissance de telle, de 15 000 par exemple, vous payez, on vous tire votre vignette et vous collez ça à votre véhicule et vous êtes quitte pour toute l'année. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre, parce que après le 31 mars, pour ces particuliers-là, il y a la pénalité, comme pour tous les impôts, droits et taxes, hein, pour retard de paiement ou bien retard de déclaration, il y a une pénalité qui décote. Donc, naturellement, quelqu'un qui a payé son véhicule l'année qui suit, l'immatriculation se pointe, c'est une taxe déclarative, se pointe avec sa carte grise pour payer la TVM pour le compte de l'année. Et on vous colle votre vignette. Donc, en juin, vous irez à votre visite technique tranquillement. Parce qu'au niveau des de la DTRF, comme nous avons un poste de contrôle là-bas. Mm-hmm. Donc, même avant d'avoir accès à votre quittance de renouvellement de la visite technique, vous devez montrer votre vignette de TVM. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que nous avons un poste de contrôle là-bas qui vérifie si le contribuable est à jour au regard de sa TVM. Nous profitons pour saluer vraiment nos partenaires de la DTRF, notamment respectueusement le directeur de DG Derman pour tout son effort pour cette tasse-là.
Ok, un autre cas d'école, un monsieur X a sa voiture qui est restée au garage pendant 6 mois, pendant 2, pendant 3 ans. Alors, lorsque monsieur X remet sa voiture en circulation, au titre de quelle année doit-il payer la TVA? Monsieur Fassa.
Merci pour cette question. Et comme les dispositions de l'article 160 l'ont stipulé, lorsque, pour une raison, votre véhicule doit être immobilisé, il faut d'abord informer l'administration. Donc, il faut envoyer une lettre d'information à l'administration pour signaler...
Qui concrètement, l'administration?
L'OTR. Oh, okay. Donc, représenté par le service de la TVM, TPUTR. Mm-hmm. Donc, vous envoyez un courrier pour... informer l'administration et évoquer les raisons de l'immobilisation de votre véhicule. Mm-hmm. Voilà. Et vous avez des formalités à remplir et nous gardons également la carte grise dans nos coffres là-bas. Donc, dès que vous êtes prêt à remettre votre véhicule en circulation ou bien pour la raison pour laquelle la voiture a été immobilisée, le problème est résolu, vous revenez vers nous et puis, en fonction de la durée d'immobilisation de la voiture, qui doit normalement dépasser une année avant de pouvoir bénéficier d'une exemption. Mm-hmm. Vous revenez et on va calculer la TVM que vous devez payer.
Donc, en somme, si ma voiture est restée au garage pendant 2-3 ans, oui, que je ne l'ai pas signalée à l'OTR et que je la remets en circulation, je dois payer la TVM pour toutes ces années-là.
Voilà, vous convenez avec moi que l'OTR est sans information. L'OTR ne peut pas savoir avec exactitude si votre véhicule a vraiment été immobilisé ou pas. Donc, les tests ont été clairs et la loi a prévu les procédures à remplir pour pouvoir bénéficier d'une exemption lorsque une voiture est immobilisée.
Ok. Une dernière question avant que je vous passe au confrère, peut-être. À quel service sommes-nous invités à payer la TVM?
Non, la taxe est payable à tous les guichets.
Tous les guichets routiers.
Oui, dans le bureau, division de l'Office de collecte des recettes. Vous venez tout simplement avec votre copie de carte grise et vous acquittez tranquillement. Et vous au siège, à la direction des transports routiers, comme nous le disons, ceux dont le renouvellement de la visite technique coïncide avec la période de déclaration du 1er au 31 mars, ils font leur déclaration et leur paiement en même temps au niveau des transports routiers. Au siège, nous avons un guichet dans le hall. Nous avons le quartier général même de la TVM à Tourcoing-Séminaire, derrière le château. Nous sommes à disposition. Et nous ne faisons uniquement que la TVM là-bas. Donc, nous sommes à la disposition de tous les usagers pour leurs besoins.
Merci. Arrêt Miaou Didier, le contrôle de la TVM commence le 1er avril. Et ce ne sera pas un poisson d'avril.
Arrêt Miaou. Moi, je voulais juste être un peu curieux. Est-ce que vous avez une base de données de tous les engins qui circulent dans le pays? Et est-ce que à la fin d'une année, vous avez l'assurance d'avoir pu atteindre tous les usagers?
Monsieur Gbamien?
Oui, merci beaucoup, monsieur Arimiao. Effectivement, je l'ai répété ici, nous travaillons avec la direction des transports routiers qui enregistre le jour au jour tous les véhicules immatriculés. Nous avons les services de la douane. La douane fait partie de l'OTR. Donc, nous avons un fichier assez conséquent en termes du parc automobile assujetti, redevable à la TVM. Tout mouvement, nous avons les informations pour avoir des informations sur le mouvement. Mm-hmm. Ceux qui ne paient pas, je le dis pour une raison, et c'est très important, c'est ceux jusqu'à présent. Et sur la voie, on arrête et on leur demande, après le contrôle, on s'en rend compte qu'ils n'ont pas payé la TVM 2021. 2022 et même 2023, c'est parce que soit vous avez immobilisé votre véhicule pour une raison ou une autre dont l'administration n'a pas connaissance, ou soit vous avez trouvé un moyen d'échapper au contrôle formel que nous faisons sur la voie, mm-hmm. ou vous n'avez pas fait votre visite technique. Donc si quelqu'un échappe jusqu'à présent à ce jour, a toujours ce problème de 2 ou 3 ans, c'est parce que vous n'avez pas immobilisé vous avez immobilisé votre véhicule. Nous n'avons pas. Il n'y a pas une procédure à notre niveau. Mm-hmm. Ou soit vous êtes arrangé pour échapper au contrôle sur la voie. Et aussi, votre véhicule n'a pas été à la visite technique. Sinon, vous devez être à jour et tranquillement attendre au 31 mars pour le compte de 2023 faire votre opération.
S'il arrivait que un tel monsieur ou bien une telle dame tombait finalement dans vos filets.
Oui,
quelqu'un qui a pu vous échapper pendant quelques années. Maintenant, si vous arrivez à l'avoir.
Non, c'est ce que nous disons. Vous régularisez la situation des années antérieures et l'année en cours. Et actuellement, la tendance est que si quelqu'un, après le 31 mars, pour nous particuliers, personnes physiques comme ça, ça veut dire qu'après le 1er avril, quelqu'un qui se pointe. Je donne un exemple concret. Par exemple, le 1er avril, je crois que c'est un samedi, mais nos guichets travaillent au niveau des transports routiers. Donc, quelqu'un qui se présentera sans sa TVM pour la visite technique le samedi, là, et si c'est là, il doit payer au guichet de la DTRF, il doit payer sa TVM, ce premier avis, là, ça dit qu'il paiera sa TVM avec les pénalités.
Voilà. Donc, merci. Voilà, c'est un français facile, et je présume que nous tous comprenons, mais sûrement que les auditeurs pourraient avoir des questions à vous poser, c'est dans quelques minutes. Le temps que nous terminions avec cette information qui circule sur les réseaux depuis et ce matin dans les journaux, même si ce n'est pas encore une information officielle, encore une fois, Didier Asogba, il s'agit du sieur Pacha Nyasingbe, qui, selon les informations, serait passé du pavillon militaire du CHU sur l'Empio à quelque part à Libreville. Alors, la dépêche écrit par exemple Pacha à Libreville, aucune inquiétude à se faire, fort y veille au grain. Pendant que Liberté lui aussi écrit départ de Pacha Nyasingbe de Lomé, évacuation sanitaire ou exil forcé au Gabon, et Liberté qui continue à souhaiter vivement la libération du commandant Ati et du capitaine Dontema. Les compagnons de misère du sieur Pacha dans cette affaire de tentative d'atteindre la société de l'État. Didier, alors, encore une fois, ce n'est pas une information officielle, mais les réseaux en parlaient et aujourd'hui, il y a au moins 2 journaux qui en parlent.
Oui, c'est depuis vendredi soir que cette information circule et nous était parvenue d'ailleurs. Et comme vous savez, comme d'habitude et comme toujours, il est très compliqué d'avoir une source officielle pour confirmer une information de ce genre, quitte à appeler le chef de l'État lui-même qu'il vous le dise, surtout que sur des situations comme ça, notre justice qui était censée informer ne parle pas, ne dit rien. Et donc oui, finalement, ce qui était une rumeur semble devenu une clameur depuis le week-end selon des sources concordantes. Toujours est-il que à l'heure où nous parlons, il est vérifié et que Monsieur Pacha Nyasingbe, Monsieur Luc Pacha Nyasingbe n'est plus du moins sur le territoire togolais. Des sources l'annoncent à Libreville avec insistance. Certains ont semblé dire que ça peut être ailleurs, mais je pense que puisque comme on dit, témoignage de 2-3 personnes constitue déjà la vérité. Puisque tout le monde parle de Libreville, je pense que c'est là-bas où il a été évacué. On le savait en situation compliquée depuis plusieurs mois, où il avait un problème avec des pieds qui enflaient. À un moment donné, on a entendu ses avocats qui se plaignaient qu'il risquait d'avoir le pied amputé, ce qui avait d'ailleurs nécessité qu'on l'amenait, si tu veux, au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio. Et depuis plusieurs mois, il est en traitement là-bas depuis 2020-2021. Maintenant, ça ne s'améliore toujours pas comme on l'aurait voulu. Et on a décidé de son évacuation sanitaire. Donc, on va s'en tenir à cela. Je ne crois pas que ça va être un exil pour lui, mais s'il est au Gabon, le Togo a de très bonnes relations avec le gouvernement gabonais. Il sera surveillé, il sera mieux traité, peut-être s'il a des spécialistes au Gabon que le Togo n'a pas. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire en attendant que la justice ne se prononce officiellement sur le sujet ou que, pourquoi pas, l'État togolais lui-même réagisse sur le sujet.
Arim Yaou, voilà l'information sur Kwacha Nyasimbe.
Oui, j'ai dit à ce plateau qu'il y a trop de rétention d'informations dans le pays. Il y a cette volonté manifeste de refuser de communiquer, de refuser d'éclairer les populations qui fait que les gens font libre cours avec leurs supputations qui deviennent finalement des vérités bibliques et qui font croire.
Ou coranique.
Ou coranique. Parce que le fait que les gens commencent par alimenter une information de cette envergure et que ni la justice qui devrait être. Se sentir interpellé, ne dit rien. Ni le gouvernement de l'autre côté, personne ne dit rien. Ça veut dire qu'à partir du moment où il semble être une évidence qu'on dise que le monsieur n'est plus au Togo, qu'il est évacué, et les gens vont continuer par planifier, entretenir et rendre vivace et viable des supputations. Et je ne crois pas que c'est bien que de tout temps, quand il y a des situations comme ça, personne n'ait pris la décision salutaire de dire ce qui se passe concrètement. Moi, j'aurais aimé que ce soit le procureur ou ceux qui tiennent l'administration pénitentiaire de notre pays qu'ils disent un mot. J'aurais aimé également que le gouvernement nous informe là-dessus et qu'on dise quelque chose. Mais à partir du moment où rien n'a été dit de façon officielle, je ne crois pas que nous également, en tant que journalistes, nous allons ramer avec les supputations, avec les inventions qui sont sorties des laboratoires qu'on ne connaît pas. On va peut-être commenter et porter des gants, de peur que demain, on vienne nous interpeller d'avoir dit ceci ou cela, de ce qui ne nous concerne pas, qui n'est pas officiel. Mais malheureusement, nous faisons notre travail, mais que les gens prennent la responsabilité d'expliquer et d'éclairer les populations pour éviter
nous avons besoin de l'information officielle avant de continuer par nos commentaires. La preuve, il y a quelques jours, nous avons appris qu'au Rwanda, l'opposant Paul Rusesabagina, qui a été jugé, condamné, mais à sa libération, le gouvernement rwandais a rendu public un communiqué. Mieux, un officiel, porte-parole du gouvernement rwandais, a expliqué à l'opinion le pourquoi et le comment de la libération de M. Paul Rusesabagina et pourquoi il devrait, après sa libération, quel était son sort. Comme ça, ceux qui vont aimer, ceux qui ne vont pas aimer, ne vont pas aimer. Mais on sait que c'est l'information officielle. Ici, chez nous, quand nous sommes obligés de citer des informations qui ne sont pas officiellement avérées, ça nous met vraiment un peu mal à l'aise. Juste quelques petits détails avant la pause. Nous avons parlé du match Togo-Burkina. Hein? Demain, mardi, ce sera à 19h de Lomé. Le 21h, c'est heure GMT. Heure de l'Europe, hein? C'est à 19h, heure de Lomé. Et puis, des questions déjà que les auditeurs nous envoient aux amis de l'OTR. Nous allons plutôt nous sacrifier à la pause et puis revenir avec les réactions des auditeurs. 93.5. Eh bien, c'est à présent l'heure des auditeurs. Vous composez les deux numéros, le 22-21-33-74. Le 91 36 63 75 et vous posez des questions, vous émettez vos commentaires sur tout sujet. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet débattu aujourd'hui. Déjà, premier auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Oui, ça va chez nous.
Oh, par la grâce de Dieu, vraiment soyez bénis. Hein.
Merci beaucoup.
Et passez une très bonne semaine.
Merci.
Bon, ça, j'ai des inquiétudes là. Vous venez de parler sur, comment on appelle ça, les gestions de OTF et tout ça là.
Oui.
Bon, je voudrais savoir si, M. Sass, ce que la population togolaise attend de nos dirigeants, nos gouverneurs, c'est la gestion des biens de l'État. Où, toutes les années, les TVM dont on prélève, tout cela dans le pays, hein, le port autonome de Lomé, notre phosphate, tout ça là, est-ce qu'on ne peut pas quand même essayer quand même de nous, de faire semblant, quand même de nous donner des chiffres pour chaque...
Nous en sommes aujourd'hui à au paiement de la TVM, hein, la gestion des ressources. Je ne veux pas les défendre, mais ils ne sont pas les plus qualifiés. S'il vous plaît.
Deuxième inquiétude.
Oui.
Bon, vous venez de parler de Patania Simbe. Moi, j'interprète le chef de l'État, vous savez, dans la vie. On a souvent dit que le serpent qu'on a vu d'œil ne peut plus encore mordre. Bon, il faut qu'il libère, c'est vrai, qu'il est en prison. Il a presque fait la peine de ça, a presque épuisé presque la moitié de sa peine. Donc, je lui demande tout humblement de le libérer, de pardonner. Vous voyez, dans la vie, je l'ai dit l'autre fois, comment ne pas pardonner son frère? Il faut pardonner et qu'on sente que réellement, vraiment, les Togolais ont l'esprit de pardon.
Merci beaucoup, l'ami évangéliste Ngor. Le suivant déjà en ligne, bonjour.
Suivant, c'est moi, ça, c'est bonne arrivée.
Ah, merci.
Monsieur Garou.
Monsieur Garou.
Je voulais parler à propos des épaviers.
Oui.
Bon, il a une vidéo qui circulait. Un Dieu dit que la fédération lui devait 25 millions. Que si on ne paie pas, nous allons jamais gagner. Jamais, jamais de la vie. Il faut que la fédération fasse un effort pour rencontrer ce vieux. Secondo, j'avais fait une proposition. Ministre des Sports militaires et fédération militaire. Je dis, il faut un entraîneur militaire. Pourquoi pas un général? Et on prendra la coupe. Monsieur, bonjour.
Et peut-être même des joueurs militaires comme ça, la boucle est bouclée.
Ah oui, justement, même classe, peut-être.
Également des spectateurs militaires, des journalistes sportifs militaires. Monsieur Garo, vous comprenez, c'est avec beaucoup d'humour et d'ironie. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Ah, c'est monsieur Mbappé du Togo.
Monsieur
Mbappé du Togo.
Ah, vous n'avez trouvé autre nom que Mbappé?
Ah, c'est ça, Mbappé. Okay. Parce que ça me, le nom là me plaît. Okay. Je vais intervenir au niveau au sport, quoi.
Ok, merci.
Bon. Je voulais souhaiter une bonne chance aux éperviers du Togo pour oui. demain. Mais ce que le coach doit savoir, que le jeune Jane Dakonam ne doit pas jouer parce que il nous déçoit trop. Donc il a déjà déçu le premier entraîneur qui est Claude Leroy.
Oui.
Claude Leroy n'a pas su l'utiliser dans ses jours. Maintenant, l'entraîneur, l'autre qui est venu, il déçoit, il ne sait pas aussi. Moi, je voudrais que il n'a qu'à rester au banc. Oui. Et on utilise Ouattara, soit on utilise un autre attaquant. Uh-huh. Pour que.
Djéné joue en défense, hein?
Non, il parle de là-bas.
Pardon?
Vous parlez de Djéné
Djakoba? Je ne parle pas de Djéné, je parle de Fodo là-bas.
Fodo là-bas, ok.
Fodo là-bas, qui ne donne pas la joie au public togolais, c'est de lui que je parle. Donc, il doit rester au banc et suivre quelqu'un jouer, le coup. Okay. Et maintenant, quand il est au banc, ça dit qu'il doit réfléchir beaucoup. Parce que le coup, quand il va rentrer, il va chercher à prendre la place.
Okay.
Voilà.
Merci.
Et maintenant, Jane, le pourquoi le Togo, vous allez voir que le Togo, on prend les buts à la dernière minute. Jane se bat trop et il quitte la défense. Il va pour chercher le but parce que l'autre n'arrive pas à faire. Il n'a qu'à rester. Tchanga faisait parce que c'est un bidouzer. Lui, il n'est pas bulldozer, il n'a qu'à rester à l'arrière et fuir, c'est-à-dire contrôler tout l'arrière. Vous allez voir que le Togo prend les buts à la dernière seconde. Donc, il se fatigue, il n'arrive pas à faire le travail.
Merci, l'ami Mbappé du Togo. D'autres diraient que on peut trouver 8 millions de sélectionneurs au Togo, mais qui est le plus à même, that is another question. Le suivant, bonjour.
Bonjour Canal FM, bonjour Saskao, bonjour le plateau.
Bonjour à vous.
C'est Richard depuis Copenhague.
Notre ami Richard le Danois.
Oui, nous écoutons.
Et j'ai deux petites questions pour l'agent de l'OTR. Bon,
oui.
De TVM. Ma préoccupation, c'est bon, nous, la diaspora, ou bien ceux qui ont plusieurs voitures garées au garage, et après 2-3 ans, ils reviennent pour un entretien pour remettre sur la route. Quelle serait leur décision? Mais la deuxième préoccupation, pourquoi ne pas associer la TVM à la visite technique? Là, on sait bien que la visite technique, elle est d'une année, d'une année. Donc, quand tu viens pour faire la visite technique, on t'applique la TVM là-dessus en même temps. Là, tu es quitte. Je ne vois personne qui vient faire la visite technique et quelques mois après retourner encore faire la TVM. C'est un peu désordonné.
Merci beaucoup.
S'il te plaît, facilitez-nous la tâche à ce que quand nous venons pour faire la visite technique, qu'on fasse la TVM en même temps et qu'il y ait des vignettes.
Merci beaucoup, l'ami Richard du Danemark. Le suivant, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Oui, pour les invités, la TVM, là, c'est pas 8 tasses de trop encore pour le Togolais Lambda. Pour monsieur Pachala, oui. Il faut que le monsieur change un peu d'air, ça c'est normal. Le président a bien réfléchi d'envoyer son petit.
Ah, il n'a pas dit que c'est le président, hein?
Pardon?
Il n'est pas dit que c'est le président qui a envoyé Kwacha quelque part.
Non, peut-être que c'est sur l'instruction.
En tout cas, nous n'avons pas dit ça. Nous avons dit que Kwacha est envoyé à Libreville.
Bon, sans que le président le sache.
Je ne sais pas.
Bon, pour le gouvernement, pourquoi le gouvernement évite la presse privée? En ne nous invitant pas à leur séminaire gouvernemental. Ça, il faut chercher à savoir, monsieur Sass.
Ok. Nous sommes les premiers à chercher à savoir. Merci. Le suivant.
Bonjour.
Oui.
Komi.
Ah, Komi. Nous vous écoutons.
Bonjour.
Merci.
Demandez à l'agent de l'OTR.
Non, vous-même demandez-leur directement. Ils sont
oui, là. C'est ça. 2021, 2022, 2023, au total, combien on a cotisé par année? Deuxième question. Vous le savez mieux que moi, trop de taxes. La tasse. Ça fait partie d'évolution d'impôt. Vous avez mis la poche dans nos pantalons que moi j'appelle braquage. En ce sens que chaque litre d'essence payé, on prend l'entretien routier là-dessus. Et monsieur Sass vous a rappelé que le poste de payage aussi constitue à l'entretien routier. Et la TVM se positionne toujours pour l'entretien routier. N'est-ce pas un braquage de nous les Togolais? Et pour confirmer cela, le nombre d'accidents élevés que nous avons eu, la plus grande partie se passe sur la nationale numéro 1. Et pas vous dépasser le péage de Gazier, si je ne me trompe pas, c'est Goudron Viré et Deauville. Quel est alors le revêtement dont vous parlez?
Merci beaucoup.
Et pour finir,
oui.
vous permettez, lorsque vous dites que vous avez un poste au niveau de ce plat, alors quelle est la raison qui motive que nous tous nous devons payer avant début avril? Puisque vous avez déjà un poste là pour servir qui veut, attend qu'il veut. Pourquoi alors coincer tout le monde? Pour ne pas se rimer à ce que
merci, Komi,
l'assurance
merci, Komi, vous êtes gentil. Il y a aussi d'autres qui attendent. Bonjour, l'ami. Allô?
Bonjour, mon patron.
Ah, Patrick.
Monsieur Sass.
Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Merci. D'abord, une question pour nos amis de TVM aussi. Là.
Oui.
Mais pourquoi il doit avoir des arriérés pour le paiement du TVM? Et je rejoins aussi M. Richard qui vient de dire pourquoi on ne veut pas coupler la visite comme on le fait pour l'assurance pour qu'on puisse régler ça année par année. Pourquoi il doit avoir des arriérés? Ça, c'est ça. Maintenant, pour revenir au niveau du sport, c'est ça, la dernière fois que vous avez reçu M. Aimé Le Bon été, là,
oui.
J'ai tenté, mais la ligne était très, très occupée. J'ai voulu vous dire quelque chose. M. Sass, ce qui se passe au Togo en matière de football, c'est très grave.
tout ce que les gens racontent présentement, que un vieux, ça là, je ne vais pas me mêler dans cette histoire, mais tout ce que moi je sais, c'est que les anciens présidents qui ont défilé à la tête de la Fédération Togolaise de football, on doit les réunir. Ils ont un mot à dire. Ça, c'est le président. Les journalistes, la plupart des journalistes, et même le bon même fait partie. Les autres font partie. Les anciens joueurs qui aidaient l'équipe à gagner, ils ont des mots à dire. Les supporters, même certains joueurs, ça, ce n'est pas dans l'immédiat parce qu'on a un match demain. Après ça, il va falloir qu'on a gardé une assise aussi pour le football. Sinon, on aura toujours ce genre de problème. Merci.
Merci beaucoup. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Patron.
Monsieur
Patron.
Ok, allez-y.
Ok. Bon, en fait, moi, d'abord, merci à vous tous sur l'antenne là-bas.
Merci.
J'aimerais intervenir sur par rapport à l'invité à la TVM. Mm-hmm. Sincèrement, je pense que c'est une suggestion, hein, si c'est possible, qu'il puisse y soir sous contrôle du 1er avril là. Mm-hmm. Étant donné qu'on ne peut pas vous faire la visite technique sans la TVM, donc un moteur qui tourne et qui veut faire sa visite technique paiera certainement sa TVM. Inutile qu'on commence par encore faire la poursuite, remettre la pression sur les gens. Mm-hmm. Un auditeur aussi avait déjà parlé de ça. Je ne sais pas comment se fait-il que péage, essence et TVM et tout ça là se retrouvent sur la même logique de la réparation des accès routiers. Mm-hmm. Et aussi, est-ce que c'est possible que la TVM puisse nous faire un bilan depuis que ça a commencé?
Oui.
Combien on a payé leur redevance et ça a donné quel coût et ça a servi à quoi? Mm-hmm. Je vous remercie.
Je vous en prie. Nous allons prendre le dernier auditeur. Bonjour.
Oui, allô.
Oui.
Bonjour, bonjour, ça, Didier. Comment ça va?
Ah, Didier.
Oui.
Oui, allez,
je voulais demander à nos amis de TVM, là, s'ils ne sont pas un peu maladroits en mettant la date sur le premier, sachant que le premier est pris comme un poisson d'avril. Donc, ils ont besoin d'un communicateur comme mon ami Tanyao. Et puis vers la fin, je voulais demander, il y avait quelque chose que je n'ai pas écouté là. Mon ami Tanyao disait que dans ce pays, il y a trop de rétention d'informations, il y a trop de ça. Je voulais demander, c'est le pays de Gnassingbé, il faut qu'il parle bien de quel pays, quoi. Et puis je voulais demander, pourquoi on n'a pas invité pour le séminaire de... tellement qu'il défend le gouvernement, ils l'ont même pas
invité. Comme Tanyao, c'est votre ami, je vais le laisser vous répondre dans un moment. Merci aux auditeurs. Eh bien, messieurs Pamier et Passa, vous constatez, il y a beaucoup de questions qui viennent à vous. On n'a pas le temps d'y répondre une à une, mais allez-y pour la synthèse. Monsieur Pamier.
Oui, merci beaucoup. Ça, c'est nous remercions nos amis auditeurs et auditrices pour l'intérêt qu'ils portent. Hein. Par rapport à cette taxe. Effectivement, pour nos amis de la diaspora, c'est un problème réel qui se pose. Sauf qu'il déclenche le processus d'immobilisation en aval. Je m'explique. La loi dit clairement, je donne un exemple, je suis là à Lomé, j'ai acheté mon véhicule, je l'ai utilisé pour un temps, je dois partir. Je dois partir pour au moins un an. Et qu'est-ce que je fais? Je m'adresse au service de l'OTR, où je remplis un formulaire d'immobilisation et on écrit, vous adressez un courrier justifiant la cause de l'immobilisation, nous retirons la carte grise originale, une fiche d'identification et maintenant nous suivons le dossier pour un an. On s'assure qu'effectivement vous êtes la voiture immobilisée au moins pour un an. Après un an, dès que vous arrivez, nous, on introduit un certificat pour délivrer la délivrance d'un certificat d'immobilisation de dispense signé par le commissaire des impôts. Donc, généralement, ce à quoi nous assistons, c'est que c'est en aval que c'est au retour qui vient, il nous informe qu'effectivement, j'avais garé mon véhicule. Non, c'est une procédure qui doit être déclenchée en amont. vous venez de façon déclarative, vous laissez vos informations, vous partez, nous suivons le dossier pour un an. Donc, dès que vous revenez l'année prochaine, pour l'année pour laquelle le véhicule a été immobilisé, vous bénéficiez d'une dispense tranquillement. C'est votre droit le plus absolu.
Alors, de haute préoccupation, pourquoi ne pas associer TVM et visite technique?
Oui, ces préoccupations reviennent souvent. Vous savez, pour faire une loi au niveau de l'Assemblée, non seulement on tient des exigences budgétaires, nous avons des normes communautaires. Le Togo ne vit pas en vase clos. Il y a les convergences de l'UMO à respecter. Nous avons aussi les doléances des contribuables, évidemment, qu'on prend en compte. La TVM a été lancée dans les années 2000 parce que, au niveau de l'UMO, il y avait toute une politique de grands travaux qui étaient enclenchés au niveau des États. Ils ont décidé. Et donc, il a fallu trouver un mécanisme pour essayer de collecter des taxes additionnelles pour assurer l'entretien.
Je comprends, mais cette technique doit s'harmoniser avec nos réalités ici au Togo.
Effectivement, il y a un travail qui se fait et nous avons de très bonnes informations pour les auditeurs très bientôt. Nous sommes en train de développer un programme où très bientôt, c'est de votre maison, vous ferez votre déclaration. Nous sommes en train de travailler sur la fiscalité des particuliers. De votre portable, vous faites votre déclaration et vous payez votre TVM. Donc, c'est une procédure qui est en cours. Nous allons tenir compte des...
Un auditeur qui demande de se soit au contrôle annoncé pour commencer le 1er avril.
Bon, là, je ne suis ici que pour respecter la loi. Ce sont les dispositions du code. Voilà. Les codes sont là. Vous avez la déclaration, la période de déclaration, la période de paiement. Le code aussi nous donne des mécanismes de contrôle pour voir effectivement si le contribuable est à jour. Et c'est le contrôle courtois que nous agents font sur la
voie. Vous êtes seulement porteur de messages ici. Vous n'avez pas la force de décider. Et puis, depuis que la TVM est instaurée, vous pouvez esquisser un bilan de ce que l'OTR a pu collecter et ce à quoi cela a servi. Est-ce que vous êtes habilité pour ça?
Non, nous ne sommes pas. Nous jouons notre rôle de mobilisateur. Mais au vu des résultats que nous avons, franchement, en termes de glissement annuel, il y a un effort vraiment qui est fait. Il y a une adhésion de la population, contrairement à ce que les auditeurs disent. Parce que moi, j'ai des amis qui ont payé leur véhicule le 20 décembre de l'année passée.
2022.
Et déjà, le 5 janvier, ils sont à ma porte pour payer la TVM 2023 pour le compte de l'année 2023.
C'est parce que ce sont vos amis.
Non. C'est juste qu'il y a eu un travail, il y a un dialogue, un travail de communication.
Vous les avez aidés. OK. TVM, taxe de trop.
Taxe de trop, je n'en passe pas.
Les auditeurs sont revenus là-dessus.
Voilà, donc de trop, je ne pense pas vraiment. Bien sûr que je suis dans le rôle de mobilisateurs, mais je crois que les grands chantiers entamés par sous le pôle du chef de l'État sont là et parlent.
Vous avez répondu à la question, pourquoi des arriérés encore? Oui, Arim Yaou, votre ami, ton ami Didier.
Non, je voudrais souhaiter bon midi à Didier. Je crois qu'il n'est pas en carême comme moi, sinon le soir je pourrais être avec lui ensemble.
Pour la rupture du jeu.
Oui, pour la rupture, et lui dire que j'aime quand il intervient et qu'il nous interpelle sur des situations, mais il a dit que je suis l'avocat défenseur ou bien le communicateur de l'OTR. Si je l'étais, il a parlé de l'OTR également. Si je l'étais, je ne crois pas qu'on aura l'inspecteur et son collègue ici. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, par rapport au gouvernement, il a dit que je suis pratiquement le porte-parole. Et je ne le suis pas. Si je l'étais, je n'allais pas critiquer ce gouvernement en disant qu'ils font la rétention de l'information. Je n'allais pas dire ici que quand on suppute que Kwacha est ramené au Gabon, je n'allais pas dire que le procureur ou la justice devrait dire un mot. Je n'allais pas également dire que le gouvernement aussi allait porter sa part de vérité à la chose. Donc bref, nous sommes là pour tous les Togolais. Et quand c'est blanc, par endroit, nous le dirons. Quand c'est noir, nous le dirons. Et parfois, quand vous dites du blanc, que quelqu'un ne veut pas entendre, il trouve que vous êtes là pour les autres. Et quand vous lui dites ce qui n'est pas bon à entendre, il se plaint également. Donc, mon frère Didier, je ne suis là pour personne. Je fais l'objectivité. Je dis les choses telles qu'elles sont.
Pour le cas de Nyasingbe Kwacha, je rappelle que ce n'est pas une information officielle, mais elle circule sur les réseaux. Vous en avez connaissance et au moins deux journaux en parlent aujourd'hui. Et comme nous sommes une émission de revue de presse,
nous avons cité hein, ces articles-là. Didier, peut-être une réponse aux auditeurs.
Bon, oui, ce que je voulais dire à nos amis de l'OTR, puisque ce sont nos amis, les auditeurs l'ont déjà dit, je pense que les autorités sont à l'écoute pour les prochaines fois, comment accommoder cette loi-là, la TVM. Le directeur a dit qu'il y a une adhésion, personne ne refuse de payer la TVM, mais je pense que c'est la façon de payer qui est juste le souci. Il y a l'UEMOA, d'accord, mais nous avons le Togo avant l'UEMOA. Donc, on peut toujours essayer de voir comment on harmonise nos lois avec nos réalités. Je pense que ça, c'est tout le monde qui se sentirait mieux pour payer avec joie cette TVM-là à l'avenir. Je pense que l'OTR pourrait continuer à travailler dans ce sens-là. Nous sommes journalistes, je l'ai déjà dit en pleine émission, nous sommes journalistes, nous sommes Togolais. Nous ne pouvons pas aller exercer ce métier au Bénin ou en France ou au Ghana où les autorités de ces pays parlent facilement aux journalistes et aux médias de leur pays. Nous aimerions juste continuer cette plaidoyer que si les autorités veulent nous voir devenir de grands professionnels pour que les prochaines fois, ils ne perdent pas beaucoup d'argent en invitant des journalistes de RFI, de Jeune Afrique, de France 24, pour les activités qui se déroulent chez nous ici et pour lesquelles des fois nous devenons des spectateurs. Il faut vraiment qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous associent à des activités et qu'on continue à développer et à déployer ce que nous avons appris à faire. Et moi, là, la façon dont les choses se font, ça, tu as soulevé un point. Nous, jeunes qui intègrent nos rédactions auront des difficultés pour maîtriser le travail. Ce qu'on fait, c'est l'avenir qui est dangereux parce que si les jeunes n'ont plus de reportage pour aller collecter les informations, venir les traiter avant les publications et qu'on envoie des informations toutes faites, on doit seulement publier, nos jeunes qui sortent des universités et des écoles de journalisme auront de très grandes difficultés à l'avenir et ce qu'on dit de nous aujourd'hui, qu'on n'est pas professionnel et tout, demain ça va être pire. Et donc, ne contribuons pas à rendre difficile le métier pour les jeunes.
Tu vas accoucher plutôt avec ton carton de fin d'émission.
Mon carton de fin d'émission, ce n'est pas un carton en tant que tel, ça va rester une exhortation. C'est, le week-end, j'étais beaucoup dans la périphérie, dans les périphéries de Lomé. J'étais à Pessito, vers Michintové. J'étais dans les coins de Diagblé, Djoblakopé pour des histoires de famille. Et je crois que nous sommes dans une période assez dangereuse et j'interpelle encore la CET, encore une fois, parce que je vois des toiles d'araignée avec des fils qui traînent pratiquement par terre et des fois même dans l'eau. Vous savez, le courant, l'association courant et eau, ce n'est pas toujours joli à voir. Et les toiles d'araignée qui tombent avec tout ça, mais et que les autorités ne disent rien, il faut toujours, nous les interpellons, la CET, on ne les critique pas. Il faut apporter le réseau aux citoyens qui ne font qu'en demander pour payer. J'ai vu sur la voie de Michintové là, des poteaux qu'on est en train de mettre. C'est déjà bien, mais il faut hâter un
Merci
peu de pas
Didier.
Pour que les populations aient l'électricité.
Je n'ai pas de carton, sauf que je voulais appeler tous les Togolais à la mobilisation, à la prière, pour que demain, les éperviers nous sortent de la honte que nous avons toujours gagnée. Bonne chance aux éperviers.
Au moins, ce sera bon pour le moral. Oui. Monsieur Bamien, M. Passa.
Oui, Sass, merci pour l'opportunité offerte cette matinée pour discuter de la tasse sur le culin moteur. Et nous exhortons les personnes physiques relicatées à ce jour de se conformer. Nous avons jusqu'à vendredi de passer tranquillement au guichet de l'hôtel pour régulariser leur TVM.
Et c'est la loi.
C'est la loi.
À partir du 1er avril.
Oui, il y a un contrôle qui
se fait. Avec pénalité. S'il faut changer, ce n'est pas à votre niveau. Pour le moment, il faut. Mais ce n'est pas ça, c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est le message dont vous êtes porteur. Merci. Eh bien, la semaine est bien lancée. Le Club La Presse, nous nous retrouvons demain avec d'autres visages, d'autres voix. Mais c'est la même philosophie, à savoir nous informer nous-mêmes à temps réel sur des questions au jour le jour, avec la complicité positive des techniciens et surtout de vous. C'est ensemble que nous irons de l'avant.